Théologie mystique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 25 février 85.
Nous avions essayé de terminer la dernière fois le chapitre 16. Et nous entrons maintenant, si vous voulez, dans la grande prière sacerdotale, la prière du Fils bien-aimé. Alors voyez bien l'ordre dans lequel, de fait, Saint Jean nous donne ces différents aspects. Nous avons le grand enseignement de Jésus sur le mystère du Paraclet, cet enseignement prophétique qui implique toute une vision ultime sur l'Église, qui nous met en présence du lien particulier de Jésus et de l'Esprit de vérité du Paraclet. Dire que c'est la grande théologie du mystère de l'Esprit Saint qui nous est donnée là. Et c'est donné par mode ultime et dernier, et qui enveloppe toute l'Église. On comprend très bien que l'Église ne peut pas se voir en dehors d'une théologie de l'Esprit Saint. Voir l'Église en dehors de la théologie. Vous voyez, c'est un petit peu tout à l'heure ce qu'on disait à propos de la philosophie. Comment la politique ne peut se voir qu'à l'intérieur de l'éthique, faites le parallélisme ici. C'est que l'Église, c'est le milieu qui nous porte dans notre devenir. Nous sommes dans le sein maternel de l'Église. Nous sommes dans un état embryonnaire tant qu'on est sur la terre. Tout le grand devenir du mystère de notre vie divine. Et ceci ne peut se comprendre que porté par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne la signification à l'Église. L'Église en elle-même n'a pas de signification. Vous voyez, c'est pour ça que saint Thomas n'a pas fait de traité scientifique de l'Église. On dit que saint Thomas l'a oublié. Non, il sait très bien. C'est impossible, parce qu'il n'y a pas de principe propre. Il n'y a que les sacrements, il n'y a pas de principe propre. C'est les sacrements qui sont la structure, mais qui ne sont pas une structure, parce que c'est des instruments et des signes. Donc ce n'est pas un principe. Les sacrements ne sont pas principes. Le principe, c'est le Christ, le principe, c'est le Père, le principe, c'est l'Esprit Saint. Et le paraclet, comme principe ultime d'amour et comme communication inutile d'amour, porte l'Église. Et c'est, je crois, l'analogie que nous pouvons faire, que je faisais tout à l'heure, entre le point de vue politique-éthique, et puis ici nous pouvons dire Église et Esprit-Saint. Et c'est l'Église est portée par l'Esprit-Saint. Et donc, on ne peut pas faire un traité de l'Église en dehors de cette vision du paraclet qui nous est envoyée. En dehors de ce don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est, ce qu'on a dit plus d'une fois, l'âme de l'Église. Qui est l'âme de notre âme, si vous voulez. Et qui nous porte. Et qui nous fait comprendre comment toute l'économie divine sur l'Église provient de l'Esprit Saint et conduit à l'Esprit Saint. Et donc n'a pas de sens en dehors de l'Esprit Saint. Je crois qu'on peut le dire, que l'Église n'aurait pas de sens en dehors de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que l'Église a toute sa signification. comme Marie, d'une certaine manière, par rapport à Jésus et par rapport à l'Esprit Saint et par rapport au Père, parce qu'elle est toute relative à la très sainte Trinité. Complementum totius trinitatis, le complément de la très sainte Trinité. Et donc elle ne peut se comprendre que dans cette lumière de la très sainte Trinité. Et nous avons le dernier moment, dans le chapitre 16, des adieux. C'est important pour montrer ce dernier attachement à Jésus. Dernier moment où Jésus regarde les apôtres en les éclairant. Et tout se termine, voyez, par le point de vue de l'efficacité de la prière. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, pour que votre joie soit en plénitude. Ce lieu embryonnaire de notre vie divine, qui est l'Église, c'est le lieu du grand désir, c'est le lieu de la grande demande. C'est bien ça qui est exprimé par Jésus en montrant l'efficacité de la prière. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit en plénitude. Je vous ai dit cela en similitude, en parabole. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en similitude, mais où je vous informerai ouvertement du Père. Et ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. C'est important de saisir, dans cette lumière précédente du paraclet, l'importance de la prière, vous voyez, et de la prière de demande. Et aussi ce que Jésus annonce comme une révélation très directe au-delà de tous les symboles. Alors, est-ce que ça veut dire le moment où on quitte la terre pour rejoindre Jésus dans la vision béatifique? Quand nous verrons Jésus au moment de la mort, puisque c'est lui qui nous jugera, nous ne verrons pas encore la vision béatifique. Nous n'aurons pas encore la vision béatifique, mais nous aurons la vision du Christ, la présence de Jésus, dans une certaine connaissance mystérieuse qui ne sera plus la foi, qui sera une connaissance expérimentale d'une science infuse. À ce moment-là, Jésus ne nous enseignera plus en parabole. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous informerai ouvertement du Père. Alors, est-ce que c'est l'allusion, voyez, au jugement particulier? Je me demande. Est-ce que c'est l'allusion au jugement particulier? Parce que tant que nous sommes ici sur la terre, l'enseignement du Christ se fait toujours par parabole. Et nous savons très bien que nous ne pouvons pas avoir d'autres connaissances de Dieu qu'une connaissance symbolique. Nous avons une connaissance scientifique par la théologie, c'est sûr, mais cette connaissance scientifique est portée par une connaissance symbolique et elle retourne une connaissance symbolique. Il ne faut pas l'oublier. La connaissance scientifique de la somme théologique de saint Thomas est momentanée. Elle est entre deux connaissances symboliques. La connaissance symbolique première et la connaissance symbolique ultime et dernière. Et puis entre deux, il y a cette connaissance scientifique. Alors, est-ce que Jésus fait allusion à cette connaissance que nous aurons tous de lui au moment du jugement particulier? Ce n'est pas précisé. C'est très difficile d'interpréter ça autrement que ce moment où nous serons proches de lui. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous, vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis venu auprès de Dieu. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu un changement de type de connaissance après la résurrection de Jésus. Ou bien, alors ce serait la dernière interprétation qu'on pourrait donner, toutes ces interprétations peuvent être vraies, c'est ça qui est assez étonnant, parce qu'elles ont toutes une certaine, ça atteint une certaine profondeur de cette affirmation de Jésus. Puisque la résurrection nous donne la signification dernière de la foi chrétienne. Vous voyez, je pourrais dire, toute la première alliance s'éclaire par la venue du Christ. Et toute la vie apostolique de Jésus s'éclaire par la résurrection. Vous voyez bien les deux aspects. Et donc, si vraiment la résurrection éclaire toute la vie apostolique de Jésus, on peut dire que tant que la résurrection n'est pas vécue, tout est regardé d'une façon symbolique. Même la croix, parce qu'elle est vue de l'extérieur. Tandis que par le don de l'Esprit Saint et par le mystère de la résurrection, on peut dire que notre Seigneur nous donne un nouvel enseignement qui n'est plus un enseignement symbolique, qui est un enseignement direct. Mais au niveau intérieur, comprenons bien, au niveau de la théologie mystique, au niveau de l'expérience mystique, disons plus exactement, pas de la théologie mystique, mais au niveau de l'expérience mystique, il y a une expérience directe. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous informerai ouvertement. C'est le mystère de la résurrection, le mystère du don de l'Esprit Saint, qui permet à Jésus de nous enseigner plus immédiatement, plus directement. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous, vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. C'est, je crois, cela que nous devons dire comme interprétation la plus proche. C'est que le mystère de la résurrection et le mystère du don de l'Esprit Saint apportent aux fidèles une connaissance intime du Christ, une connaissance personnelle du Christ, au-delà de toute similitude. Au-delà de tout symbole, c'est la connaissance affective. Et la connaissance affective, elle se dit par un mode symbolique, mais en elle-même, elle est au-delà du mode symbolique. Elle est un contact direct de notre cœur avec le cœur de Jésus. Elle est un contact direct de notre intelligence avec l'intelligence du Christ. Et donc à ce moment-là, on est instruit par l'Esprit Saint d'une manière toute directe. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Et donc ce sera aussi ce contact direct avec le Père Parce que nous demanderons quelque chose dans le nom du Christ. Et demander quelque chose dans le nom du Christ, c'est vivre de sa présence, c'est vivre de sa personne. Et donc c'est de pouvoir entrer dans cette alliance plénière, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Le Père met toutes ses complaisances dans le Fils bien-aimé, et il met toutes ses complaisances en nous. Et donc on peut dire que Jésus l'a annoncé, d'une façon discrète, mais d'une façon réelle, ce qui existera après le mystère de la résurrection, grâce au don de l'Esprit-Saint. Ses disciples disent, voilà que maintenant tu parles ouvertement et ne dis aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit, à présent vous croyez, voici qu'elle vient l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Vous voyez, ça c'est très éclairant pour, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était cette parole-là qui est très forte. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez de l'affliction. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc vous voyez que Jésus donne ses ultimes recommandations-là. Et ses ultimes recommandations, c'est de montrer que, à partir du mystère de la résurrection et du don de l'Esprit Saint, il y a comme un nouveau lien qui se fait, un lien d'intimité, au-delà de l'histoire, au-delà du point de vue extérieur, au-delà du conditionnement humain, et qui se fait par la conduite intérieure de l'Esprit Saint sur nous. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint qui sont enfants de Dieu. Bien, ce n'est que sous cette conduite de l'Esprit-Saint que nous pouvons découvrir la présence de Jésus en nous. Et que nous pouvons découvrir cette présence efficace, aimante, lumineuse du Christ en nous, qui nous dirige, qui nous conduit. Et alors, quand Jésus dit cela, on voit tout de suite les disciples. Voilà que maintenant tu parles ouvertement et ne dis aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout. Donc quand Jésus dit ces paroles, il les réalise dans le cœur des apôtres. Les apôtres ont un avant-goût du mystère de la résurrection. C'est Jésus qui les fortifie comme au Tabor. C'est un Tabor immédiat, si vous voulez, juste avant le mystère de la croix. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Et malgré cela, malgré cette expérience que Jésus leur donne, ils ne seront pas capables de suivre jusqu'au bout. Il n'y aura que Jean. C'est très beau, ça, parce que ça montre à la fois la fragilité dans laquelle on est, et en même temps l'appel impératif du Christ. Et c'est peut-être là où on découvre le mieux la différence entre l'enseignement du Christ par rapport à son peuple, l'enseignement du Christ par rapport aux apôtres, et puis cet enseignement intime et mystique qui se fait sous l'action de l'Esprit-Saint. Nous avons très nettement les trois. Et ça, je crois que c'est quand même très important à bien saisir. Parce que c'est le dépassement de tout enseignement par mode de similitude parabole. Parce que quand Jésus explique aux apôtres la parabole de la parole de Dieu, il maintient encore la parabole pour les disciples, mais il en donne l'explication. Tandis qu'ici, Jésus dit, on sera au-delà de la similitude. On sera au-delà de la parole. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance-là ? Ça ne peut être qu'une seule connaissance intime et immédiate. c'est la connaissance du cœur à cœur. C'est la connaissance intime de l'expérience du bien-aimé au plus intime de notre cœur. Et alors, on voit que les apôtres ont déjà cette connaissance, ont déjà les prémices de cette connaissance, ils ont déjà un certain contact avec Jésus. Voilà que maintenant, tu parles ouvertement et ne dis aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout. Alors, c'est immédiatement comme une nouvelle approche de Jésus, une nouvelle intimité avec Jésus. En cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Et Jésus répondit, « À présent, vous croyez, voici qu'elle vient l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés. » Voilà la réalité immédiate. C'est le mystère de la croix, et c'est le mystère de la croix va disperser les disciples, chacun de son côté, et me laisserait seul. Mais je ne suis pas seul. Victoire avec l'affirmation, mon Dieu, comme tu as de l'Église, ont bien compris ces deux affirmations, et saint Thomas aussi. Ces deux affirmations qui peuvent paraître contradictoires, mais qui ne le sont pas. Jésus a connu dans son expérience humaine. Je vous ai dit, l'expérience que le Christ a connue durant la terre a duré jusqu'à la croix. Et bon, Jésus a donc connu dans son cœur d'homme un abandon. Il a fait l'expérience d'un abandon total. Mais en même temps, en profondeur, au plus intime de son âme, il sait que le Père est là. Dans la vision béatifique. La vision béatifique ne disparaît pas à la croix. Et c'est la vision béatifique qui fait que l'absence sensible du Père est encore plus intolérable. Et donc Jésus seul a connu vraiment l'absence, expérimentalement, l'absence du Père, à cause même de cette présence au plus intime de son âme, dans la vision béatifique. Et alors là, on voit très bien que ces deux affirmations ne sont pas contradictoires. Oui, c'est comme quand saint Thomas pose la question, est-ce qu'on peut en même temps être dans la joie et souffrir? Être dans la joie et être dans la douleur. Il dit oui. On peut être en même temps dans la joie et dans la douleur, on est dans la joie au plus intime de son âme, donc cet aspect mystique par la présence du Père, et on est dans la tristesse, dans notre sensibilité humaine, dans notre affectivité humaine. Notre affectivité humaine n'est jamais ce qu'est d'ultime. Ce qu'est d'ultime, c'est ce qu'est au plus intime de notre cœur. Et alors c'est là où il peut y avoir la joie et la paix, tout en étant troublé dans notre affectivité. Notre affectivité reste toujours, notre activité humaine reste toujours dans l'ordre du conditionnement. Il n'y a que notre volonté intérieure qui, elle, atteint la fin. Mais notre affectivité, ce que nous ressentons, quoi, notre affectivité au vieux de notre conscience, reste quelque chose qui demeure dans le conditionnement. Je vous dis cela pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez de l'affliction, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus annonce ces deux aspects qui existeront toujours dans le chrétien, un aspect de victoire dans l'ordre de l'amour, j'ai vaincu le monde, et un aspect de souffrance, d'affliction, parce qu'il s'agit d'être uni à la croix du Christ. Alors, s'il faut être uni à la croix du Christ, on connaît l'affliction et la souffrance, mais en même temps, on est uni à Jésus ressuscité dans ce qu'il y a de plus profond. Alors, entrons maintenant dans le chapitre 17, qui n'est pas un enseignement, qui est une prière. Alors, une prière, ça ne s'analyse pas. Le Père Hostie dit ceci, ce morceau unique, joyau de l'Évangile, est traditionnellement appelé prière sacerdotale, depuis le théologien luthérien David Kitraeus au XVIe siècle. Jésus y parle en prêtre qui, l'heure venue de s'offrir en sacrifice, prie pour tous ceux qui se rattachent à lui dans la foi et l'amour. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est la prière essentiellement du Fils bien-aimé ? Je dis ça pour retrouver, voyez, ce qui caractérise tout l'évangile de Saint Jean, c'est l'alliance du Père avec le Fils bien-aimé, en qui il a mis toutes ses complaisances. Alors, est-ce que nous ne devrions pas dire que c'est la prière du Fils bien-aimé qui accomplit jusqu'au bout la volonté du Père ? Et cette prière du Fils bien-aimé va impliquer cette prière sacerdotale. Mais je crois que c'est plus, vous allez le voir, hein, vous connaissez du reste suffisamment ce chapitre 17, c'est beaucoup plus la volonté ultime du Fils bien-aimé qui s'exprime que le point de vue sacerdotal. Mais il est sûr que le sacerdoce du Christ, épître aux Hébreux, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Si le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé, dire que c'est la prière du Fils bien-aimé, ça montre le caractère particulier de cette prière sacerdotale. C'est pour ça que j'aime mieux dire prière du Fils bien-aimé, qui va impliquer l'aspect sacerdotal. Jésus parla ainsi, et levant les yeux au ciel, il dit. Donc, c'est comme si Jésus, subitement, entrer dans une relation unique avec le Père, séparé des autres. Je ne dis pas que c'est une extase, c'est plus. Jésus ne subit pas l'extase, c'est bien ce que dit Cachetan. Il dit l'extase est à cause de la faiblesse de notre corps humain. C'est à cause de ça qu'il y a des extases. Et que si notre corps était suffisamment fort et suffisamment, j'allais dire, éduqué par Dieu, il n'y aurait pas d'extase charismatique, il n'y aurait que l'extase mystique. Et l'extase mystique, c'est tout simplement vivre dans une unité substantielle d'amour avec Jésus, avec le Père, sous le souffle de l'Esprit Saint. Mais c'est vivre cette unité substantielle de l'amour. Et c'est d'expérimenter cette unité substantielle d'amour. Tandis que l'extase charismatique, c'est la séparation de l'esprit et du corps au niveau imaginatif. L'imagination est comme arrêtée. Et alors il y a une séparation. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne ressent plus rien. Votre voisin peut être là pour vous secouer et vous restez sans bouger, n'est-ce pas ? Comme absent. Et votre âme, dans ce qu'elle a de plus profond, est unie à Jésus, est unie substantiellement à la source de toute votre vie divine. L'extase charismatique n'est pas un absolu. Dieu permet l'extase charismatique comme un témoignage pour les autres. C'est pour les autres. C'est pas pour celui qui vit l'extase. Pour lui, ce serait mieux qu'il n'y ait pas d'aspect charismatique et qu'il puisse vivre uniquement la présence. C'est ce que Marthe disait de façon admirable, du reste, quand elle expliquait que De plus en plus, l'intimité avec Jésus, avec Marie, était telle qu'elle restait présente aux autres qui étaient là. Alors qu'au début, toute emprise de l'Esprit Saint amenait une extase charismatique. Ce qui montre bien, vous voyez, que l'extase charismatique implique toujours une certaine fragilité. Mais si l'amour augmente et s'intensifie, alors il n'y a plus d'extase charismatique, il n'y a plus d'extase mystique. Nous avons le droit de demander de vivre l'extase mystique sans demander l'extase charismatique. Parce que je vous ai déjà dit, si on avait tous des extases charismatiques au cœur. À l'oraison du matin, là on aurait beau entendre sonner la cloche, on n'entendrait rien. Ce serait très beau du reste, pour les autres. Alors c'est pour ça qu'ici, il faut bien voir que Jésus entre dans cette extase mystique. Et c'est le contenu de cette extase mystique qui nous est donné. Comment ça s'est réalisé historiquement, je n'en sais rien. J'en avais pas là un carnet de notes ou un magnétophone pour prendre, c'est sûr. Et Marie n'était pas là. Où est-ce que Marie était là? Il semblerait que non, puisque le soir, les saintes femmes et Marie restaient plutôt à l'écart. Je ne crois pas qu'elles sont descendues dans cette soirée du Jeudi Saint. Après le mystère de l'Eucharistie, elles sont sans doute restées. Marie a prié, c'est bien évident. Alors, ce qui est possible, vous voyez, ce qui est très très possible, c'est que mystiquement, Marie a vécu cette prière. Jean l'a vécu, sûrement. Jésus l'a dit grâce au sermo sapientiae. Ça relève directement du sermo sapientiae. C'est le passage le plus éminent du sermo sapientiae. Jean l'a entendu. Je ne crois pas que Jean l'a retenu. Quoique c'est possible qu'il y ait une assistance particulière, mais je crois aussi que Marie l'a vécu, elle, dans sa solitude, et qu'elle l'a redonné à Jean, et que Jean a pu dire oui, c'est bien ça, confirmant ce que Marie avait vécu. Ce qui serait très très beau, ça, c'est pas dit. Je comprends très bien, le Saint-Esprit fait ça pour dérouter les exégètes. Parce que le Saint-Esprit, il aime bien les dérouter, que voulez-vous, pour qu'ils puissent rester des enfants. Et qu'à un moment donné, comment voulez-vous pouvoir justifier historiquement à partir du moment où Jésus a quitté la scène et descendu sur les bords du Cédron et arrivé à Gethsémani? Historiquement, c'est impossible. On doit faire une confiance totale à Jean. C'est ce que nous devons faire. Mais historiquement, c'est impossible. On comprend très bien qu'on ne peut pas. Il n'y a que les apôtres, ils ont vécu ça dans l'intimité. Et moi je dirais, il y a sûrement Marie qui l'a vécu d'une façon toute intérieure. Père, alors nous allons essayer, non pas de l'analyser, parce que je crois qu'il ne faut pas l'analyser, mais il faut essayer de saisir l'orientation de cette prière. C'est cette prière qui nous donne ce qu'il y a de plus grand dans le cœur du Fils bien-aimé. C'est au moment ultime de la réalisation de ce que le Père demande que nous découvrons le mieux la profondeur du cœur du Fils bien-aimé, du cœur sacerdotal du Fils bien-aimé. Père, il est venu l'heure. Donc ceci montre qu'on est arrivé au moment de l'exécution. Jusque-là, Jésus a porté la volonté du Père comme quelque chose qui devait se réaliser. Et ici, c'est la réalisation. Père, elle est venue l'heure. Dans tout le langage de Saint Jean, et on peut dire dans le langage de Jésus, l'heure, c'est l'heure de la rencontre avec le Père. C'est l'heure où le Fils achève sa mission. Il est venu pour cela. Il est venu pour cette heure. Il est venu pour cette rencontre avec le Père. Pour cette rencontre avec le Père de celui qui porte l'iniquité du monde et qui veut être en face du Père comme le seul responsable de cette iniquité du monde. Et il sait qu'étant seul responsable de cette iniquité du monde, de ce poids de l'iniquité du monde, il devra par le fait même porter pleinement et totalement toute la justice du Père. Et cette justice sera dépassée par un amour unique, par cet amour substantiel qui l'unit au Père. Mais la justice est présente dans l'heure. Parce que d'une certaine manière, vous voyez, c'est la justice qui précise l'heure, c'est pas l'amour. Pour l'amour, c'est toute la vie de Jésus. Pour la justice, c'est une heure précise. Parce que la justice, elle se réalise dans le temps. C'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. C'est pour ça que je crois que l'heure fait allusion ici, là, directement à l'aspect de la justice et de la rencontre. C'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et c'est cet agneau qui accepte de subir toute la justice du Père. Père, elle est venue l'heure. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Alors, ici, nous retrouvons ce que nous avons déjà vu, ce grand mystère de la glorification du Fils. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Donc c'est une glorification mutuelle, une glorification qui dépend du Père, qui vient du Père en premier lieu, et qui remonte du Fils vers le Père. Alors c'est là où il faudrait se demander au point de vue théologique, quelle différence y a-t-il entre la glorification du Fils et la glorification du Père ? La glorification du Fils, elle se fait par le Père. Et la glorification du Père, elle se fait par le Fils. Donc déjà là, au point de vue de l'origine, nous voyons la très grande différence. Il ne faut pas les identifier. On doit les distinguer. La glorification du Fils, c'est la glorification du Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. C'est le bien-aimé. C'est non seulement le Verbe, mais le Verbe qui assume la nature humaine. C'est le Verbe qui s'incarne dans la nature humaine. C'est lui le Fils, et c'est lui qui est glorifié. Le Père ne peut pas regarder seulement le Verbe. Et le Père ne peut pas regarder seulement l'humanité. Il regarde l'unité des deux dans ce mystère de l'union hypostatique. Donc, la glorification que Jésus réclame pour lui, glorifie ton Fils, c'est la glorification de toute son humanité sainte. Au fond, on pourrait dire, voyez, que c'est l'achèvement du mystère de l'Assomption, de l'incarnation. L'incarnation va jusque-là. Dieu a voulu que l'incarnation se réalise de telle manière pour que Jésus vive notre conditionnement humain, donc qu'il y ait un devenir, qu'il y ait un progrès. Il progresse en sagesse jusqu'à la croix. Et donc il y a comme un progrès jusqu'à la croix. Et cette glorification, c'est l'ultime moment du mystère de l'incarnation. Si j'essaie de comprendre les effets et les conséquences de l'incarnation. Et cet ultime moment de l'incarnation coïncide avec le mystère de la rédemption. Là, incarnation et rédemption sont un. Et sont un dans la glorification. Glorifie ton Fils. Alors, la glorification du Fils, qui vient du Père, c'est toute la gloire de Dieu, toute la gloire du Verbe, qui va s'emparer du Fils. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Donc le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père afin que le Fils te glorifie. Il glorifie en étant glorifié. Le Père est pleinement glorifié. On ne peut rien ajouter à la gloire du Père, à la gloire essentielle du Père, comme disait théologien. On ne peut rien ajouter, mais on peut ajouter quelque chose à l'extension de cette gloire. Et la glorification du Fils, c'est la glorification de cette extension de la gloire du Père. L'extension de la glorification du Père, c'est le mystère même de la glorification du Fils. Afin que le Fils te glorifie. Et on voit bien, afin que le Fils te glorifie, le lien est essentiel entre la glorification du Fils et la glorification du Père, qui se fait par le Fils. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Alors vous voyez bien. La glorification du Fils, qui permet au Fils de glorifier le Père, implique, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, implique l'exercice de l'autorité suprême de Jésus sur la chair humaine, sur son humanité sainte, et à travers son humanité, sur toute chair, afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne à cela la vie éternelle. Alors on précise ce que représente ce don que Jésus réalise, ou que le Père réalise par lui, sur toute chair, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Alors je crois qu'on peut dire, n'est-ce pas, que c'est vraiment la possibilité de communiquer à tous les hommes son mystère de gloire. Afin que, qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Et on précise alors le mystère du salut. Le mystère du salut, c'est le mystère de la vie éternelle. C'est de communiquer la vie éternelle. Ça, c'est le mystère du salut. Alors ça, c'est très important pour nous de bien préciser, vous voyez. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est ce qui est dit directement. Et c'est en ce sens-là que le mystère de la foi n'a de signification pour nous que dans ce but précis où Jésus est venu. C'est pour que nous puissions vivre de la mission du Christ. Donc le mystère de la croix, le mystère de la foi, devient nécessaire pour que nous puissions vivre de la vie éternelle. Et pas pour autre chose, hein. Premier but de la foi. La foi ne nous est pas donnée premièrement pour que nous puissions connaître sociologiquement ce qu'est l'humanité. La foi ne nous est pas donnée premièrement pour que nous connaissions philosophiquement ce que c'est que l'humanité. La foi ne nous est pas donnée premièrement pour que nous connaissions scientifiquement l'humanité. Non. La foi est indépendante de toutes ces modalités de connaissance. Elle est directement donnée pour que nous puissions vivre de la vie éternelle. Ça, c'est capital de comprendre ça. Et c'est capital de le faire comprendre. Que la foi, c'est pour la vie éternelle. Hein. C'est pas pour autre chose. Parce que si vous changez et modifiez le but de la foi, alors à ce moment-là, vous ne voyez plus et vous ne comprenez plus pourquoi la foi. La foi est une épreuve. C'est une épreuve, la foi. C'est bien évident. On aimerait tous voir. Et ce n'est pas commode, quand notre intelligence est développée, d'accepter l'attitude de petitesse de l'embryon. Peut-on retourner encore dans le sein de sa mère, hein ? C'est la réaction spontanée d'un être intelligent, Nicodème. Peut-on retourner dans le sein maternel ? C'est impossible, on ne peut pas. Alors, si c'est impossible, vous voyez bien, la culture d'aujourd'hui est si perfectionnée, si grande, peut-on encore retourner au Moyen-Âge et avoir la foi ? C'est monstrueux. La foi est une épreuve. Et c'est une épreuve dont on doit comprendre la signification. Non pas par la foi, puisqu'elle est une épreuve, mais par la finalité de la foi. Et la finalité de la foi, c'est pour que nous puissions vivre de la vie éternelle. Donc chaque fois qu'on est tenté d'une manière ou d'une autre au point de vue de la foi, chaque fois que notre foi est un peu ébranlée, chaque fois que Jésus est dans le fond de la barque et dort et que la barque est très secouée, et donc on est tenté en disant « Mais quoi, quand même ?» Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut tout le temps se rappeler ça. Je crois pour vivre de la vie éternelle. Et non pas du tout pour voir clair sur tel ou tel problème. C'est pour vivre de la vie éternelle. Afin que, qu'à tous ceux que tu lui as donné, afin qu'à tous ceux que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Le mystère de la glorification de Jésus est lié en premier lieu à la glorification du Père. C'est dans cette lumière-là qu'il faut la comprendre. Et elle s'étend à toute chair. C'est très beau de dire qu'elle s'étend à toute chair. Nous aurions dit à toute intelligence, à toute âme spirituelle. Non, à toute chair. Parce que c'est un mystère de glorification du corps. Et parce que c'est un mystère qui implique la glorification du corps, on doit dire selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne à cela la vie éternelle. Et la vie éternelle regarde la chair. Donc regarde bien le mystère de la résurrection et le mystère de la glorification. Vous voyez comme c'est serré, hein, et on est sur la crête, le sommet. Et telle est l'éternelle vie, qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors on précise ce qu'est cette vie éternelle. C'est quand même très important, puisque c'est la finalité vers laquelle nous tendons. Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle ? Bien, cette vie éternelle, c'est connaître le Père. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu. Le seul véritable Dieu, c'est le Père. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez que c'est dans la lumière de la paternité. Et c'est dans la lumière de la filiation que nous entrons dans cette prière. Alors, vous comprenez bien, connaissance ici, il ne s'agit évidemment pas d'une connaissance philosophique, scientifique, il s'agit d'une connaissance mystique, intérieure. Telle est l'éternelle vie qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Alors toujours cet aspect johannique, le véritable Dieu, le véritable pain. Vous savez bien, ça c'est une expression tout à fait consacrée de Jean. Elle est très belle du reste. Une réduplication pour montrer ce qui est véritable. Aujourd'hui on dirait ce qui est authentique, hein. C'est l'authentique, le véritable dans Saint Jean. C'est celui qui seul est pleinement ce qui est signifié par le nom. Celui qui est Dieu au sens le plus pur, le plus absolu, le plus lui-même, véritable Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc nous glorifions le Père en accomplissant l'œuvre qu'il nous donne à faire. Puisque c'est comme cela que Jésus a glorifié le Père. Donc nous pouvons, nous, dans la mesure où nous continuons l'œuvre du Christ, dire aussi que nous glorifions le Père. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est dans l'obéissance au Père qu'on accomplit sa tâche et qu'on glorifie le Père. C'est dans l'obéissance qu'on glorifie le Père. Et l'obéissance est impliquée dedans. Puisque on réalise pleinement ce qu'il demande. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors ici, Jésus va expliquer quelle est la gloire qu'il demande au Père. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Il veut être glorifié auprès du Père, dans le rayonnement du Père, dans la dépendance totale du Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors ce petit passage que nous avons déjà vu, et ce petit passage, si on a l'analyse, va très loin, parce qu'il va nous aider à comprendre ce qu'est la glorification que Jésus réclame du Père au niveau de son humanité et au niveau de sa volonté de prêtre. C'est, je crois, assez net. Jésus demande d'avoir, d'expérimenter, de vivre de cette gloire unique, celle qu'il avait avant la création du monde. Quelle est la gloire que pouvait posséder Jésus avant la création du monde ? C'est pour bien nous montrer qu'il s'agit d'une gloire qui ne peut être qu'une gloire du Verbe. Avant la création du monde, n'existait que le Verbe. Et donc, c'est une gloire qu'il vivait auprès du Père, de toute éternité, comme une gloire tout à fait personnelle. Autrement, ce ne serait pas avant la création du monde. Alors, quelle est la gloire du Verbe ? Là, nous pouvons assez facilement le comprendre. Le Verbe ne fait qu'un avec le Père, il est dans le sein du Père. Et la gloire du Verbe, c'est justement d'être un avec le Père dans ce grand mystère de la fécondité, dans ce grand mystère de l'aspiration de l'Esprit Saint. Je crois que nous pouvons dire ça. Et je crois que nous devons le dire. Si on veut comprendre ces paroles de Jésus, elles sont claires. Hein, elles sont très claires. C'est qu'on a très peur d'entrer dans ce qui est dit. Mais c'est d'une clarté absolue. Il n'y a pas de symbolisme. La gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Ça ne peut être que si je ne mets, si, sauf si on, espèce, si on émet l'hypothèse de la lecture du réfectoire d'aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'humanité du Christ existait avant la création du monde. Mais l'Église catholique n'a jamais accepté ça. Le corps du Christ a été formé en Marie, à tel moment. Et donc, si le corps du Christ a été formé en Marie à tel moment, je ne peux pas parler d'une humanité du Christ antérieure à la création. Ce serait contraire, tout simplement, au réalisme du mystère de l'incarnation. Et par le fait même, avant la création du monde, il n'y a que le Verbe de Dieu. Le jeu du Christ, hein, c'est ça qui est toujours très difficile pour nous à bien saisir, le jeu du Christ que nous retrouvons constamment dans Saint Jean Ego, le jeu du Christ, regarde la personne. Quand je dis je, c'est ma personne, ça, Ego, Eimi, je suis, c'est ma personne. Le je regarde directement la personne. La personne du Christ, c'est le Verbe. Le Verbe qui a assumé la nature humaine. Et le Verbe assumant la nature humaine, c'est le Christ, c'est Jésus. Donc quand Jésus dit « je », c'est la personne du Verbe, normalement, celle qui a assumé la nature humaine, formée en Marie. Mais quand Jésus dit qu'il demande au Père la gloire qu'il avait lui, avant la création du monde, donc avant d'assumer la nature humaine, c'est la gloire propre du Verbe. Or, la gloire du Verbe, c'est d'être un avec le Père, et d'être un avec le Père pour être source de l'aspiration de l'Esprit Saint.